Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Aumôniers, infirmiers, brancardiers ou simples poilus, pour le salut de la patrie, ils ont versé leur sang. De 1914 à 1918, 2949 prêtres diocésains, 1571 religieux et 1300 séminaristes tombent au champ d'honneur, alors que 375 religieuses meurent au service des soldats. Loin de leur paroisse, ces hommes d'église continuèrent à exercer leur sacerdoce sans se préoccuper de la confession, des opinions de la classe sociale ou même de la nationalité des blessés ou des morts. Dans le Gers, à Auch, un jeune guide conférencier, Laurent Marsol, au travers de correspondances retrouvées dans les archives diocésaines, s'attache depuis quelques années à faire revivre la mémoire de ces prêtres gersois qui, durant les quatre longues années de guerre, sur le front, dans les tranchées, dans les hôpitaux, se firent plus proches encore de leurs frères. Frères d'armes, frères en humanité, frères en Christ. Début novembre, nous le rencontrions dans les bureaux de la Société archéologique du Gers, avec laquelle depuis 2013, à travers le prisme de l'histoire locale, il organise un colloque autour de la Grande Guerre, des sujets bien souvent méconnus ou peu traités.
Les prêtres gersois, je pense, enfin les prêtres en général, méritent, je pense, qu'on s'y attarde, dans chaque département. Enfin, là, on a mis bien sûr le Gers, parce que c'est traité pour le département du Gers, mais il n'y a pas que des prêtres gersois qui ont été engagés, victimes aussi, parce qu'il y en a eu, de la Grande Guerre, mais c'est dans tous les départements. Donc il y a eu des hommes, ils font partie de ces hommes, au milieu de toute une armée d'un pays qui ont donné et ont versé leur sang de la même manière que tout autre homme.
Mais justement, qui était là, à quel titre ? Ils étaient là en tant qu'aumôniers militaires ou ils étaient là en tant que poilus ?
Non, pas du tout. Il y avait déjà des aumôniers militaires, mais le corps, si j'ose dire, le statut officiel d'aumônier militaire a été créé seulement après l'armistice de 1918, depuis 1919. Donc à la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on peut parler d'engagement de prêtres au titre d'aumônier de guerre, d'aumônier militaire. Mais ça n'existait pas. Il y en a qui tenaient lieu, mais par hasard. Voilà. Depuis la guerre de 1870-71, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une précédente guerre avant la Première Guerre mondiale. Mais il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. C'est ce que j'ai essayé de faire tout modestement dans l'article qui est paru sur les prêtres gersois. C'est en 1914, les prêtres, particulièrement ici dans Gers, se sont engagés dans cette guerre de manière tout à fait naturelle. Il n'y a pas eu de question, de débat. Dès que la mobilisation générale a été placardée sur toutes les mairies du département et en France, tous les prêtres qui étaient en âge entre 18 et une quarantaine d'années, se sont engagés.
En dépit de l'esprit de 1905.
On était en 1914. Et comme vous venez de le dire, pour se mettre dans le contexte, en 1905 venait d'être votée la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et dans la foulée, on n'en parle pas beaucoup, mais une conséquence de cette loi de séparation de l'Église et de l'État, ça n'a pas plu au pape de l'époque, qui était le pape Saint-Pilice. Il a été d'ailleurs jusqu'en 1914. C'est la déclaration de guerre, il paraît, qui a hâté, disons, sa fin. Il était très malade. Et il y a eu la fin de l'ambassade de France au Vatican. En 1914, on était encore, parce que ça faisait que 9 ans, que cette loi qui avait quand même divisé la France à l'époque. Maintenant, bon, elle est adoptée par tout le monde, je pense. Enfin, une majorité de Français. Bon.
C'est vrai qu'il n'y a qu'à voir les caricatures dans les journaux.
Mais oui, le président du Conseil, Émile Combes, qui en plus, par ailleurs, ironie du sort, dans sa jeunesse, avait été quand même élève séminariste. Il était d'ailleurs au départ fait pour devenir prêtre. Donc il a perdu la foi, il est rentré en politique. Il a suivi un tout autre chemin, donc c'est paradoxal. On l'appelait le petit père Combes dans ses caricatures. On était en 1914, donc c'était frais dans les conséquences de cette loi. Il n'y avait plus à la déclaration de guerre de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, d'ambassade de France au Vatican. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de diplomatie française auprès du pape, représentant la France au Vatican, auprès du pape et des cardinaux. Elle n'est revenue, cette ambassade de France, que près de 20 ans plus tard, en 1924. Et alors là, c'est paradoxal, avec les successeurs du même bord qu'Émile Lecombe, qui était radical socialiste, avec le gouvernement d'Édouard Herriot. Donc c'est quelques années après la Première Guerre mondiale. Donc ça aurait pu empêcher l'engagement de ces prêtres. Ça ne s'est pas fait. De manière tout naturelle, l'Église, avec un grand E, s'est engagée. Il n'y a pas eu de question, un esprit patriotique, bien sûr, et national. Il fallait sauver la nation. Et puis, il y avait tout ce qui était rapporté par la presse, qui était très importante à l'époque, tous les journaux de l'époque, l'ennemi qui venait outre-Rhin, les Allemands. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est dans l'entente franco-allemande, c'est nos amis, très proches, politiquement et diplomatiquement, mais à l'époque, non, on parlait de Bosch, mais c'était vraiment très péjoratif.
Ouais, l'Alsace et la Lorraine.
On parlait du Prussien, de l'ennemi prussien, qui nous avait battus, occupés pendant plusieurs mois. On avait perdu face à eux en 1871, et plus que être défait, on avait été amputé, le territoire français, de ces deux provinces. Donc on avait hâte, on avait cet esprit de revanche en 1914, de récupérer l'Alsace et la Lorraine. C'était cela aussi. Et on partait pour ça, la fleur au fusil à l'époque. Et les prêtres en ont fait partie. Mais pas que les prêtres. Je commence mon article en signalant que c'est l'Église, mais toutes les croyances. J'ai trouvé qu'il y a quand même plusieurs centaines de pasteurs, donc pour l'Église réformée, les protestants, qui aussi se sont engagés au front. Mais il y a eu aussi de la religion judaïque, des rabbins également, qui ont pris part au conflit avec les prêtres. Mais ce sont des hommes. N'oublions pas, je le cite aussi, qu'il y a eu des femmes, bon nombre de religieuses, qui se sont faites infirmières de guerre. Alors là aussi, on parle des infirmières, il y avait bien sûr des jeunes filles, des jeunes femmes, qui étaient civiles, filles de bonne famille ou autres, sensibilisées par le besoin de participer, mais comme bien sûr elles ne pouvaient pas aller au combat, on devine pourquoi, elles ne faisaient pas leur service militaire à l'époque, donc de participer au moins à soulager les souffrances, les douleurs des soldats blessés, ou grièvement blessés, ou mortellement blessés. Mais dans ces infirmières, n'oublions pas, il y a eu aussi bon nombre, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de religieuses.
D'ailleurs, pour certaines d'entre elles, un grand nombre qui travaillent déjà dans des hôpitaux, dans des hospices.
Tout à fait, tout à fait. Il y a eu notamment bon, les hospices, les hôpitaux complémentaires. Il y en a eu quelques-uns d'ailleurs dans le département où nous sommes, qui étaient situés dans des édifices assez importants. Donc soit des anciennes, comment dirais-je, préfectures ou sous-préfectures, c'était le cas ici, c'est devenu la grande poste après la Première Guerre mondiale. Il y avait eu, donc rue Gambetta à Auch, un hôpital complémentaire, des châteaux. C'était à la demande du propriétaire, puisque c'était privé. Mais bon nombre de châteaux, dans les quatre coins de France, notamment dans le Gers, sont devenus des hôpitaux complémentaires, comme ici, pas loin de Barran, à une douzaine de kilomètres d'Auch, le château de Mazères, qui est la propriété, toujours, qu'il était déjà à l'époque, de la famille de Margerie.
Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre tâche est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez.
Alors, pour en revenir à ces prêtres et puis à ces religieux, vous me dites donc il n'y a pas de monnerie structurée ou de monnerie militaire qui existe. Alors, ils s'engagent, je vous ai posé la question, comme simples poilus, ce sont des soldats, ils portent les armes.
Alors, au départ, ils se sont engagés comme soldats au front. Et certains de ces prêtres, alors, je parle des prêtres, mais aussi, n'oublions pas, il y en avait qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas 20 ans, donc qui n'étaient pas encore prêtres ordonnés. Ils étaient séminaristes. Il y en a eu aussi beaucoup. Je les mets en avant également. Donc, au départ, ils étaient engagés comme soldats. Certains le sont restés au combat, au front. Il y en a qui étaient simples soldats en 1914, qui ont eu par leur fait d'armes, ils se sont bien distingués certains, qui sont devenus sous-officiers, voire même officiers. Par exemple, je pense, là, il me vient à l'esprit, à cet ancien curé de Saint-Peucer, qu'il était en 1914, qui, quand il est arrivé au front en 1914, il était sous-officier, il était sergent, et il a fini en 1918 capitaine et chevalier d'un légion d'honneur, médaillé militaire, la croix de guerre. Et il a combattu les 4 années de guerre. Bon, il a été blessé, bien sûr, ça ne s'est pas fait sans mal, mais c'est un des exemples de prêtres qui a été mobilisé en 1914 et qui a été démobilisé en 1918. Il y a eu d'ailleurs, pour vous citer des chiffres, 215 prêtres qui ont été mobilisés en 1914. Il en est revenu 150, 160 en 1918. Dans le département du Gers. J'ai fait d'ailleurs à la fin de cet article un petit mémorial des prêtres et des séminaristes gersois. On dénombre 16 prêtres tombés au champ d'honneur, morts pour la France, et 5 séminaristes morts pour la France. Or là, il y en a eu donc qui ont été uniquement au front, mais d'autres qui, en plus d'être au front, ont été, par le biais de certaines circonstances et occasions, surtout parce que ils s'étaient mis en avant, ils avaient une croix apparente, ou ils pouvaient avoir aussi la collerette qui signalait que, ah, certes, c'était un soldat, mais c'était un prêtre aussi. Mmh. Et puis, ils devaient peut-être, à un moment donné, parce qu'ils n'étaient pas toujours au combat, ils avaient de longs moments aussi d'attente, notamment l'époque de la guerre de position, de tranchées. Donc, ils devaient certainement prier. Ils avaient des temps, plusieurs fois par jour, même aussi célébrer des messes. Donc, les autres soldats le savaient. Ils avaient dans leur régiment un ou plusieurs prêtres. Donc, pour certaines circonstances, ils pouvaient donner ou administrer, notamment les derniers sacrements. Voilà. Parce qu'ils n'oubliaient pas, même s'ils étaient soldats, leur état, leur ministère, d'être auprès aussi et au service et au secours de leurs frères, quelle que soit leur confession, ou même s'ils étaient athées, là aussi, on peut en parler. Un acte d'humanité. Dans le dernier moment, sentant qu'on va mourir, il y en a qui pouvaient réclamer, même s'ils n'étaient pas croyants, c'est arrivé, on a des exemples, le secours d'un prêtre. Donc, ils se sont improvisés, on peut le dire, aumôniers. Mais ils n'ont pas été qu'aumôniers. Il y en a d'autres qui sont devenus brancardiers. Brancardier, oui, un soldat ou plusieurs soldats, notamment pendant la bataille de Verdun, où il pleuvait des obus, pas qu'une fois par jour, mais toutes les heures, plusieurs fois toutes les heures. Donc vous imaginez, puis un orage d'obus, ce que ça pouvait générer comme conséquence. Il y avait des bons nombres de soldats qui n'étaient pas morts, qui étaient enterrés vivants par les éclats d'obus et autres. Et les prêtres étaient engagés. Et de fait, s'il y avait un brancard, ils étaient chargés, certains, de mettre le soldat ou les soldats sur les brancards et de les transporter à l'arrière jusqu'à un hôpital complémentaire ou un hôpital de fortune. Donc il y en a qui ont été brancardiers. Il y en a d'autres qui avaient pu aussi avoir des connaissances en matière de secourisme, qui pouvaient administrer les premiers soins sur place. Donc ils se sont improvisés infirmiers. Et il y en a qui l'ont été le reste de la guerre. Non, alors qu'au départ, ils étaient engagés comme soldats. Les prêtres, c'était ça. On attendait ça d'eux. Et bien sûr, s'ils avaient la possibilité, le temps et les moyens rudimentaires certes, ils pouvaient aussi installer et monter une petite chapelle. J'ai un exemple, alors là c'était un jeune séminariste, Laurent Thalès, qui par la suite, après la Première Guerre mondiale, est devenu bien sûr ordonné prêtre. Il a été même l'aumônier des FFI pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il s'est distingué durant les deux guerres, mais il avait une vingtaine d'années quand il a été mobilisé en 1914, comme un simple soldat, il a fini sous-lieutenant en 1918. Et ce Laurent Thalès, dans une lettre qu'il avait envoyée à l'archevêque d'Auge de l'époque, Mgr Ricard, lui signalait qu'il avait réussi à monter une petite chapelle souterraine, bien sûr, avec des coffrages en bois, et c'était avec des choses rudimentaires. Le calice, ce qui figurait le calice, c'était en fait un simple verre. L'autel, c'était en fait deux caisses en bois avec une planche dessus. Mais ils en étaient contents. Mais les soldats n'étaient satisfaits de cette chapelle. Pour eux, c'était leur endroit, comme un endroit devenu sacré, qui leur permettait, au milieu des sifflements d'obus et de mitraillettes et des gaz asphyxiants, mais un moment de prière, de recueillement, besoin de spiritualité.
donc ces séminaristes, ces prêtres envoyaient des lettres, alors à leur hiérarchie ecclésiastique ou à leur famille aussi?
Ils pouvaient en envoyer à leur famille, mais nous, ce que nous avons retrouvé, c'est surtout des lettres envoyées à leur hiérarchie. Alors, pas un autre prêtre, forcément, mais ils écrivaient le plus souvent au vicaire général, qui était ici l'abbé Clerjac. Et on a retrouvé plusieurs cartons qui sont en train d'être référencés et inventoriés aux archives diocésaines de l'archevêché d'Auch, où il y a plusieurs dizaines de lettres écrites par donc bon nombre de ces soldats ou de ces infirmiers, brancardiers ou devenus aumôniers par certaines circonstances, donc de ces prêtres du diocèse, qui écrivaient à leur vicaire général ou à l'archevêque d'Auch, qui ces lettres étaient parues dans ce bulletin donc, qui était imprimé par l'archidiocèse d'Auch, la semaine religieuse. Donc c'était en fait un hebdomadaire, toutes les semaines paraissait un nouveau numéro. Et là, tout le long de la guerre, de 1914 à 1918, certaines lettres, pas toutes bien sûr, parce que c'était plusieurs par jour, pouvaient être publiées sur ce bulletin la semaine religieuse, pour rassurer, parce que l'archevêque d'Auch avait quand même d'une certaine manière, la responsabilité de ces prêtres. Et puis, même s'ils étaient au plus loin de leur paroisse, ils étaient toujours curés pour l'abbé Méniaud, que j'ai cité, qui a fini capitaine à la fin de la guerre, était toujours curé de Saint-Peucer. Il fallait bien sûr qu'il se fasse remplacer. Donc là, c'était les prêtres qui étaient à la retraite, qui, bien sûr, étaient chargés de suppléer à ce manque. Mais ils étaient toujours curés de leur paroisse. Et il y avait, je pense à toutes les messes dominicales, donc le dimanche matin, les fidèles paroissiens des paroisses de ces prêtres qui étaient engagés sur le front, je pense, une prière où ils pensaient à leur curé de la paroisse et à tous les autres curés du département, du diocèse et de France qui étaient engagés au front. En plus, bien sûr, de tous les soldats, de manière générale, qui étaient au front. Mais il y a eu dans les prêtres gersois aussi, comme tout bon nombre de soldats, des prisonniers de guerre. Certains qui, bon, à l'issue de certaines batailles ou conflits, étaient prisonniers de l'ennemi, des Allemands, et qui, donc, étaient envoyés en plusieurs endroits. Alors, il y avait Erfurt, il y avait surtout en Saxe, Zossen-Wunsdorf, qui a été l'une des villes dans la Saxe en Allemagne, qui a, disons, concentré le plus gros contingent, si j'ose dire, de prêtres et de séminaristes, et notamment gersois. Qui, là, pareil, l'archevêque d'Auch, le sachant, avait besoin de savoir ce qui devenait. Leur quotidien, s'ils vivaient bien, mine de rien. Parce que comme tout soldat lambda qui était prisonnier de guerre, c'était honteux. Et les prêtres aussi pouvaient avoir ce sentiment-là. Un état de prisonnier, on le sait aussi par le général de Gaulle, qui était capitaine à l'époque, il n'a pas pu combattre la majeure partie de la Première Guerre mondiale. Et pour ça que tout soldat prisonnier cherchait un jour ou l'autre à s'évader. Même s'il était repris, c'était un besoin pour. Parce que, bon, mais être prisonnier de guerre, non, il valait mieux mourir qu'être prisonnier. Voilà. Et bon nombre de ces prêtres, donc, ont été prisonniers tout le reste de la guerre jusqu'en 1918. Et ils continuaient aussi à leur ministère de prêtre. Donc, il disait des messes, il donnait des communions. Et là, j'ai un exemple, l'abbé Lafont, qui était curé de Lombès, donc une petite commune, ancien évêché dans la Gascogne, où nous sommes. L'abbé Lafont signalait à l'archevêque d'Auch qu'il avait fait le compte des catholiques. Il y en avait-il dit, dans son camp à Zossen-Wunsdorf, 5 000. Et il avait donné plus de 12 000 communions. Donc, il y avait bien sûr les catholiques, mais aussi d'autres qui n'étaient pas de confession catholique ou qui ne croyaient pas, qui, ben, voilà, ils donnaient la communion, il y avait cette symbolique-là, pourquoi pas.
C'était comme un moment de partage,
de camaraderie, sans doute aussi, diverses raisons. Ouais. Voilà. Ils vivaient aussi dans des planches. Ils signalaient qu'ils avaient constitué leur propre baraquement, des planches en bois. Et qu'ils n'ont pas eu le chauffage de suite, mais ils ont fini par l'avoir, par le biais d'un poêle. Alors, pour eux, c'était le Pérou. Et ils signalent aussi le menu qu'ils avaient tous les jours. C'était pas grand-chose. Hein. Je pense que le régime, il y était. Le matin, ils avaient du café. À midi, on leur servait un plat de légumes. Et le soir, de la soupe. à la fin là, de mon article, je signale aussi deux extraits. Un extrait de lettre, une lettre qui est parue sur la semaine religieuse. Et là, il y a un extrait d'une lettre qui a été publiée par l'archevêque d'Auch et qu'il avait rédigée sitôt l'annonce du 11 novembre 1918. Où c'est troublant parce que cet archevêque d'Auch, Mgr Ricard, après la Première Guerre mondiale, bon, il s'est un peu piqué ou intéressé de politique. On en a beaucoup dit et parlé ou écrit, mais il est penché un peu du côté de l'Action française, ce qui lui a valu certains désagréments, même vis-à-vis de sa hiérarchie au sein de l'Église. Et là, on est donc en 1918, le 11 novembre, la fin d'une guerre, interminable à l'époque. C'était la guerre des Ders, c'est ça, donc, il y avait ce soulagement, et surtout une grande ferveur d'unité nationale. Là, il n'y avait plus de classe, il n'y avait plus de différence dans les professions, dans les prêtres ou autres, ou les hommes d'église. Non, c'était un seul et même pays, c'était la nation. Là, je pense qu'en 1918, le terme « nation » prenait tout son sens. C'était un seul peuple qui avait subi, vécu dans sa chair et donné son sang donc pour le salut d'un pays, de la France. Et là, il y a un extrait que je n'ai pas pu m'empêcher de faire paraître, où il écrit, « Reconnaissance à tous ceux à qui leurs tâches et leurs fonctions demandaient de les seconder, en particulier à ce grand patriote que nos assemblées ont acclamé si justement sous le nom de Père la Victoire. » On devine qu'il parlait de Georges Clemenceau. Il faut se mettre là aussi dans le contexte de l'époque. Georges Clemenceau ne peut pas dire qu'il était franchement et foncièrement catholique. Il était plutôt anticlérical. Mais en 1918, il y avait donc le contexte qui était tout autre. C'était l'engouement, la grande ferveur, la fête, la joie, même s'il y avait beaucoup de deuil, de tristesse et de peine, mais soulagement, la guerre est terminée. Et alors là, après cet extrait troublant, quand même, de la part de Mgr Ricard, de l'archevêque d'Auch de l'époque, j'ai retrouvé, c'est paru aussi sur un numéro de la Semaine religieuse quelque temps plus tard, en 1919, et Clemenceau, il se trouvait à Strasbourg, en Alsace, devine, sur la grande place de Strasbourg, place Noire de Monde, avec bien sûr la foule des badauds, de la population locale. Il y avait bien sûr en tête les troupes des combattants, des anciens combattants, mais aussi, parmi les anciens combattants, des prêtres. Des prêtres qui, ça y est, pour certains, étaient devenus aumôniers, puisque, je rappelle, le corps d'aumôniers militaires, aumôniers aux armées, a été constitué en 1919. Et il y avait donc en tête de cortège des aumôniers militaires. Donc il est allé revoir les troupes des soldats, des anciens combattants, et puis il a salué toutes les autorités et les soldats qui étaient présents, dont notamment certains de ces aumôniers aux armées qui étaient là. Et je ne sais trop comment, en tout cas, ils ont réussi la semaine religieuse à percevoir, c'est une phrase, mais qui a été donc publiée par la semaine religieuse du diocèse d'Auch, à un moment donné, en serrant la main de l'un de ses aumôniers aux armées, il a dit « Maintenant, il n'y a plus de catégorie de Français ». Mais on est toujours dans ce contexte, c'est la nation, l'État-nation. Il n'y avait pas plusieurs peuples, plusieurs catégories, plusieurs classes, c'était une seule et même entité, le peuple français, quel qu'il soit, suivant ses origines, bien sûr, raciales ou autres, suivant sa profession, son métier, c'était un seul peuple qui avait versé son sang.
Et c'est ce samedi 17 novembre, salle des Cordeliers à Auch, que se déroulera la 4e édition du colloque sur la Grande Guerre. Elle portera sur l'année 18. Les derniers combats sur tous les fronts, la vie des populations civiles du département, les premiers bilans, perte des proches, grippe espagnole. L'entrée est libre.